De Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5 au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 23 avril et ici Charline Carreau, votre animatrice pour bien débuter la journée. Et aujourd'hui, on reçoit l'animateur d'ICI Première, Patrick Masbourian, ainsi que les journalistes du journal Les Échos Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal distribue gratuitement des sachets de semences de 6 espèces de plantes différentes pour que les citoyens les plantent chez eux. L'objectif est de soutenir les insectes pollinisateurs, indispensables à notre écosystème et notre alimentation. La municipalité a édifié un plan de protection de ces insectes qui prévoit notamment la restriction de l'utilisation et de la vente de plusieurs pesticides. On continue de notre côté sur CIBL avec l'entrevue des journalistes du journal Les Échos Montréal. Nous sommes de retour sur CIBL pour parler du dernier numéro du journal Les Échos Montréal avec deux de ses journalistes, Eva Cadas et Jean-Corrie Rasmur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
La une de ce numéro d'avril est dédiée au reportage que vous avez mené en immersion avec une patrouille de police à Montréal. Pourquoi le journal a-t-il décidé de couvrir ce sujet, selon vous ?
C'était vraiment pour pouvoir représenter un petit peu le quotidien d'une patrouille de police la nuit, rendre compte aux citoyens un peu de leur réalité à eux également.
Ouais. Et donc, c'est toi, Eva, qui a suivi deux agentes de police du poste 21. Pour nous donner un peu de contexte, quelles sont les particularités de ce poste ?
Le poste 21 est un peu spécial. On dit qu'il dort jamais, dans le sens qu'il a un peu toutes les problématiques de la ville sur le dos. Il va avoir autant par rapport aux agressions sexuelles, par rapport au trafic de drogue. On va avoir beaucoup d'itinérance également, mais des scènes de crime comme on a pu avoir dans le cadre du journal. On a aussi beaucoup de santé mentale qui est gérée actuellement. Mmh. C'est le nouvel principal enjeu de la police. Mmh. Donc ils ont un peu toutes les problématiques en même temps. C'est très bouillonnant, en fait, comme milieu.
Et le territoire, c'est le centre-ville, à peu près ?
Exactement. On est sur Berry-UQAM, mais on va aussi jusqu'à La Ronde, le Casino, puis un petit peu Ville-Marie.
Ouais, très bien. Et comment tu as intégré cette patrouille ? Quelles ont été les démarches que le média a fait ?
Alors les démarches, en fait, c'est juste de contacter la police, mais au niveau plutôt bureaucratique. Ouais. Puis j'ai été ramenée vers un service qui m'a communiqué en fait l'horaire à laquelle venir, quel jour et qui allait m'accompagner.
Okay. Et est-ce que tu as pu choisir le territoire, le poste en particulier ? Non,
non, pas vraiment. C'était plutôt imposé.
Ok, mais c'est bien tombé au final parce que c'est le centre-ville,
exactement.
C'est bouillonnant, comme tu l'as dit.
Puis c'était le vendredi, donc c'est vrai que c'est un jour spécial aussi, où il y a beaucoup de monde dans les rues, donc il se passe plus de choses.
Très bien, t'es bien tombé. Et durant cette patrouille de nuit, tu nous le disais, les agents ont notamment fait face à des enjeux d'itinérance. Tu nous décris un peu la relation qu'entretiennent les policières avec les personnes itinérantes. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Elles connaissent pas mal de visages d'itinérants, honnêtement. Puis c'est très cordial à chaque fois quand elles vont les rencontrer. C'est un petit bonjour, une petite blague pour détendre l'atmosphère, puis pour faire du bien à tout le monde aussi. C'est vrai qu'après, elles m'ont dit qu'elles voyaient beaucoup de nouveaux visages, surtout après Covid. Mais ensuite, il y a par exemple eu un moment avec un couple d'itinérants, puis qui a été quand même, qui moi m'a beaucoup prise parce que en fait, la dame a annoncé qu'elle avait perdu la garde de sa petite fille. Et c'est vrai que c'est des moments qui peuvent être très durs à gérer émotionnellement, mais elles ont eu un calme plat à faire. Donc j'étais vraiment impressionnée par
ça. Et toi, tu dis que tu savais plus où te mettre, justement.
Exactement, vis-à-vis de la peine de la dame, puis c'est tombé de nulle part. Et Donc non, c'était vraiment impressionnant, mais même elles sont quand même touchées, parce que quand on est rentré dans la voiture, la première chose qu'elles m'ont dit, c'est ça reste une job émotionnelle aussi, on s'en rend pas forcément compte.
Et toi, tu t'étais préparée à ce niveau d'émotion, de dureté, en intégrant cette patrouille ?
Je m'y attendais un petit peu, mais peut-être pas à ce point, parce qu'on a toujours beaucoup d'attentes par rapport à une patrouille de police, puis on s'imagine beaucoup de choses par rapport aux films, aux séries, enfin toute cette culture-là autour. Mais c'est vrai que le côté émotionnel, je m'y attendais peut-être pas autant. Je pensais pas qu'il prenait une place aussi importante.
Et justement, est-ce que ça a déconstruit certaines images que tu avais sur la police dues à des films ou autres? Cette relation notamment humaine entre les itinérants et la police, moi, m'a surprise personnellement. Est-ce que ça t'a permis de voir une certaine réalité que tu n'avais pas en tête?
Je pense que j'ai surtout vu la réalité de ce binôme-là que j'ai rencontré. Donc, qui m'a beaucoup... qui ont été vraiment très avenantes avec moi, très bienveillantes. Donc, c'était deux femmes, c'était les agentes Alain Morin et La Pointe. Donc, j'ai rencontré un peu leur réalité à elles. Je ne sais pas si c'est le cas de toute la police, en tout cas, mais c'était intéressant de la voir à travers leurs yeux à elles, en tout cas.
Tu abordes notamment dans cet article le fait qu'elles soient des femmes policières. Comment ça va les impacter dans leur travail au quotidien ?
Alors, elle m'expliquait que, par exemple, on avait tendance à souvent leur dire « t'es bien trop belle, pour être policière ». Et c'était surtout par rapport au niveau des citoyens qui, des fois, refusaient même leur autorité. Donc, c'était compliqué à gérer. Mais au tout début de leur carrière, ça leur arrivait aussi également en interne, dans la police. Où c'est comme on remet un peu en question leurs compétences et leur uniforme, parce que ce sont des femmes. Mais petit à petit, elles m'ont expliqué que les choses ont évolué. Elles ont réussi à se faire leur place, puis... Ça fait longtemps qu'elles sont là maintenant, donc elles ont un peu instauré leur autorité aussi. Mais c'est vrai que leur réalité est clairement différente de la réalité d'un policier masculin, enfin de leur collègue masculin du moins.
Durant cette nuit, tu as couvert des scènes plus tendues comme celle d'un homicide dans le quartier chinois. En tant que journaliste, quelles sont les exigences d'une telle immersion face à ces scènes tendues ?
Prendre beaucoup de recul. Être très objectif, parce que c'est quand même des scènes très violentes. On arrivait sur la scène, il n'y avait pas de corps ou quoi que ce soit, mais il y avait une grosse flaque de sang. Donc, se préparer psychologiquement à avoir ça. Puis aussi, prendre la distance, prendre toutes les précautions, les écouter, parce qu'il y a beaucoup de protocoles à mettre en place au niveau de la sécurité. Mais surtout, prendre un petit peu de recul face à la situation, parce qu'on n'est pas dans le même cadre en tant que policière, en tant que journaliste.
Quelle opportunité ça représente pour toi ? Vous êtes tous les deux en stage, c'est ça, en journalisme aux Échos Montréal. Quelle opportunité ça représente pour toi de faire un tel reportage, une telle immersion, alors que tu débutes tout juste ta carrière en journalisme ?
Je pense que ça n'aurait pas été possible dans un autre cadre, potentiellement. Puis le fait d'être immergé comme ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Le fait d'être sur le terrain, tout court, c'est une belle opportunité en tant que stagiaire.
Les Échos Montréal nous ont surtout habitués à des chroniques, des articles, mais vous faites également du reportage. En tant que média local, pourquoi c'est important de faire des reportages à cette échelle-là, malgré un budget qui peut être limité ?
Mais c'est d'être vraiment sur le terrain. Puis on est un journal local, je pense que c'est important d'être sur le terrain, particulièrement, surtout dans nos zones à nous, et de rendre compte de la réalité des gens, puis de faire entendre des voix qui pourraient ne pas être entendues en temps normal.
En parlant de nouveaux contenus, vous avez également investi TikTok avec des micro-trottoirs et des vidéos explicatives. Jean, c'est notamment toi qui t'occupes de ça. Pourquoi proposer du contenu sur cette plateforme ?
C'est pas que moi. Je tiens à dire que c'est aussi avec Eva où on fait ça ensemble. On a décidé de faire ça ensemble parce qu'on pense que les médias locaux se doivent de se réinventer, malheureusement. On a fait plusieurs sondages, on a fait plusieurs vox pop, etc., en essayant de découvrir est-ce que les gens consommaient encore des journaux. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Mais ce n'est pas pour autant que l'information s'arrête. Je pense que c'est important de continuer d'essayer d'informer, d'innover, en particulier avec le journalisme. On a beaucoup d'outils qui nous ont offert les médias sociaux, et je pense qu'il faut les investir. Et notamment, TikTok, c'est quand même c'est le réseau social un peu majoritaire des jeunes. Et c'est un outil qui te permet de créer des petits reportages, des petits vox pop, etc., qui peuvent avoir une forte valeur ajoutée et expliquer, donner, rendre compte un petit peu de ce qui se passe à un public qui n'ouvrirait pas forcément un journal comme Écho Montréal ou comme Le Devoir, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Les jeunes ne sont pas le public le plus friand des médias, et encore moins, j'imagine, des médias locaux. Pour toi, il y a vraiment un potentiel d'investir TikTok. Tu penses que ça peut marcher ?
Oui, tout à fait. Je pense que ça fait pas longtemps qu'on y est, mais on a eu eu des chiffres encourageants, en tout cas. Les gens, et on a eu des bons retours, les gens commentent, les gens partagent, les gens like. Du coup, je pense que ça fait plaisir de toute façon à tout le monde. Autant à nous, c'est toujours chouette de proposer du contenu différent. On adore écrire des articles, mais c'est quand même chouette de proposer du contenu dans des formats différents. Et aussi le public de connaître ce qui se passe dans leur ville, ce qui se passe à Montréal. Évidemment, on est ciblé un peu à Montréal, mais je pense que c'est important et je pense que les gens réagissent très bien à ce genre de contenu.
Le dernier sujet que vous avez couvert pour TikTok, c'est la sécurité dans les transports en commun. Pourquoi ce sujet en particulier ?
Il faut dire qu'on s'est un peu, on a un peu suivi la polémique, n'est-ce pas, Eva ? Il y avait Richard Charbonneau qui était en antenne quand il a appris que sa fille avait été agressée à la station Lionel Groulx. Ça a fait beaucoup parler. Et on voulait savoir un petit peu qu'est-ce que les gens en pensaient vraiment. Parce que bien sûr, les médias, ils ont tendance parfois à faire... Il y a un effet boule de neige qui se crée parce qu'on parle et on se focalise extrêmement beaucoup sur une problématique. Et à la fin, on est allé dans le métro, on a parlé à une vingtaine, trentaine de personnes peut-être. Eva, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que les gens...
Les retours étaient très mitigés. On avait autant des gens qui disaient qu'ils se sentaient en sécurité, plus de femmes quand même qui avaient tendance à dire qu'elles se le sentaient un peu moins. Ouais. Mais on a eu pas mal de retours, puis c'était très clivant, donc c'était intéressant aussi... Ça montrait une approche vraiment de « on vient vous voir, on vient vous demander ce que vous en pensez ». Et puis qu'est-ce que vous pensez qui peut être amélioré aussi
Est-ce que vous avez déjà une idée des prochains sujets que vous allez couvrir pour TikTok ?
Là, il y a un TikTok qui s'en vient sur la nouvelle exposition du musée Pointe-à-Calière. Ouais. Donc aussi, on essaie un peu de toucher la culture. Jean s'occupe pas mal du théâtre, de son côté.
Après, moi, je vous avoue que mon stage touche à sa fin prochainement. Du coup, on fait un peu la passation de pouvoir, etc. On attend les prochains stagiaires qui vont arriver à Éco-Montréal en espérant qu'ils vont maintenir le flambeau. Et on leur souhaite tout le meilleur. Mais il y a plein de sujets. De toute façon, moi, je pense que je vais continuer à écrire des articles, probablement pour Éco-Montréal. Et ce qui est bien avec TikTok, c'est qu'on peut toujours adapter le reportage qu'on a écrit en faisant un format TikTok, en réutilisant un petit peu les mêmes informations. Je pense que c'est pas de la triche, c'est tout simplement offrir le même contenu, mais dans un format différent, ce qui est intéressant. Moi, j'ai notamment le projet d'écrire un article sur le manque de financement des médias locaux, notamment. Je pense qu'on en est tous victimes un petit peu. Et ça se prête très bien à TikTok, que ce soit en faisant des vidéos ou des dessins. Il y a plein de façons dans lesquelles on peut s'exprimer grâce à ce média. Voilà.
C'est important en tant que journaliste de pouvoir gérer plusieurs moyens d'expression. Vous parliez d'écrit, là, il y a TikTok, d'être multidisciplinaire.
Oui, c'est important de toucher un peu à toutes les plateformes. Comme on dit, l'objectif, c'est d'informer. Donc, informer le public le plus large possible. Et le plus large possible, maintenant, ça passe par les réseaux sociaux pour toucher les jeunes également. Donc oui, c'est important de toucher à toutes les plateformes.
Jean, tu parlais du financement des médias locaux. Ça tombe bien, parce que tu as écrit aussi un article dans le dernier numéro sur un média qu'on connaît bien, c'est IBL. D'où part cette initiative ? Quel était l'objectif derrière ?
Déjà, je trouve que Éco-Montréal et CIBL, c'est des médias francophones du centre de Montréal. Du coup, je pense qu'on est des médias frères ou des médias cousins, en tout cas. Et je pense que c'est important de parler des belles initiatives. Je trouve que CIBL, en tant que médias locaux, a une super mission. J'ai beaucoup apprécié le fonctionnement du média, qui me semble louable. Il y a autant de personnes qui s'investissent de façon bénévole, que ce soit le comité, les présidentes du comité d'administration, vice-président que j'ai parlé, Mme Doré, M. Robertson, et plus de 200 bénévoles qui s'investissent dans ce média. Je trouve ça vraiment génial. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent CIBL et beaucoup d'émissions d'utilité publique qui sont offertes par des bénévoles. Et je pense que c'est important de les mettre à l'honneur un petit peu et expliquer à nos lecteurs aussi. Aussi, ça peut vous faire de la pub, c'est pour le mieux.
Bon, trop merci. Voilà. Ton article, il est assez court. Je ne sais pas si tu as le nombre de mots en tête, mais c'est quelques paragraphes.
C'est 500-600 mots, je pense. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Moi, j'aime bien allonger, écrire. J'aurais bien aimé rendre compte un petit peu plus de l'ambiance. Mais on avait ce bout de journal qu'il fallait remplir. Je n'ai pas eu plus de place. On a mis une toute petite photo parce que j'avais déjà trop de mots. Mais il y a plein de choses à dire, je pense, sur CIBL, sur son fonctionnement et sur sa mission aussi voilà, d'offrir un message différent de celui des médias majoritaires aussi, et qui peut peser sur la société montréalaise.
Eh ben merci pour cette collaboration. Merci à tous les deux d'être venus nous parler du dernier numéro. On peut donc le retrouver sur ecomontréal.com et puis dans différents kiosques, dans la ville, dans les magasins. Merci beaucoup et puis peut-être qu'on se voit le mois prochain.
Merci, bye bye.
Merci beaucoup.
On continue sur CIBL avec l'entrevue de Patrick Masbourian de Radio-Canada.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Tu aimes partager tes passions? Tu as une idée d'émission et tu veux faire de la radio? C'est le moment de te lancer et d'embarquer dans l'aventure radiophonique. CIBL 101.5 est à la recherche de nouvelles émissions pour sa saison estivale. N'hésite surtout pas à nous soumettre ton projet d'émission radio. Rendez-vous sur notre site web cibl1015.com pour tous les détails.
Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, bon boy! Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5
FM.
Décadence. 3 heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
Votre week-end. CIBL au cœur de la décadence.
CIBL 105 Montréal.
Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Patrick Masbourian, animateur de l'émission Tout un matin sur ici Radio-Canada Première. Bonjour Patrick.
Allô.
Merci de trouver du temps dans vos matinées chargées pour jaser à notre micro. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'animer l'entrevue d'un animateur, vous qui assurez la matinale d'ici Première de 5h30 à 9h en semaine. Quelle est la philosophie, le mandat de cette émission pour vous?
Je ne sais pas si on peut prétendre avoir une philosophie, mais on a clairement une vision, en tout cas radiophonique, qui est celle d'un accompagnement matinal ancré dans l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est qu'on veut informer le plus possible les gens sur ce qui se passe au moment où ça se passe. Mm-hmm. Donc, nous, on appelle ça l'urgence de la situation. Alors, vous allez me dire...
C'est pas tout le temps urgent.
C'est pas tout le temps urgent, mais c'est une façon de se motiver et de se dire que lorsqu'on arrive le matin à 5h30, notre objectif, c'est pas de faire un résumé de ce qui s'est passé la veille. Mm-hmm. C'est de s'inscrire dans la journée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un regard sur l'actualité internationale à cause du décalage horaire, donc généralement sur certaines questions. Évidemment, d'ordre international, bien, il y a déjà du nouveau. Parfois, mm-hmm. Prenons l'exemple du conflit au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, bien oui, il peut y avoir des dépêches qui nous informent de ceci ou de cela. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'ancrer dans l'actualité du jour, évidemment avec un retour sur les histoires importantes de la veille, peut-être avec une prémisse sur les histoires importantes de la journée là, qui s'en viennent, mais c'est un peu ça l'idée. Là. Donc, nous, c'est d'informer le plus possible, ancrer dans le moment présent et tout ça avec un ton convivial. Mm-hmm. Donc, c'est finalement, pour essayer de résumer plus simplement, d'informer le sourire aux lèvres. Les gens se lèvent le matin, ont d'autres obligations aussi, donc c'est un peu faux de prétendre qu'ils vont s'asseoir, s'arrêter mm-hmm. et nous écouter là, avec énormément d'attention. Il y en a qui le font. Et ça dépend des sujets, ça dépend des invités. Faut aussi savoir comment capter l'oreille de l'auditeur. Mmh. Donc, aller chercher cette attention-là. Mais on est dans une approche d'accompagnement, mmh, puisque eux-mêmes commencent leur journée. Fait que c'est, on se colle à eux, puis on essaie de le faire avec quand même beaucoup de convivialité.
Là. C'est un beau mandat. Vous animez tout un matin depuis l'automne 2019. Pourquoi la direction de Radio-Canada est venue vous chercher pour ce poste-là?
Ben, c'est à eux qu'il faudrait le demander. J'avais eu la chance de faire quelques remplacements qui avaient été, en tout cas, j'ose espérer, remarqués, suffisamment remarqués, en tout cas, pour qu'on me considère. Parce que c'est quand même assez rare qu'on offre le poste de manière officielle à un remplaçant. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est inusité, mais quand même, c'est plutôt rare. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est justement ce caractère un peu mini-wheat, là, si je peux prendre une image là, qui va faire écho puis qui va peut-être simplifier mon propos initial. Là. Donc ce côté à la fois nutritif et de l'autre, givré, mm-hmm, c'est-à-dire l'amalgame de ces deux faces, de ces deux côtés. Donc, une certaine versatilité, polyvalence. Je suis à la fois capable de faire une entrevue politique, en tout cas, du moins, je l'espère, là, aux oreilles des journalistes dont c'est la spécialité, mais aussi capable de faire le clown à certains moments, mm-hmm, donnés, c'est-à-dire de rire un peu de ce qui se passe, de soulever certaines ironies propres à, justement, à ce qui nous entoure. Puis ça. Et aussi beaucoup, je pense, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime mettre en valeur à la radio et qui, je pense, est bénéfique pour ce type d'émission-là aussi. Une approche quand même assez chaleureuse, mm-hmm, c'est-à-dire animé avec cœur. C'est un, mm-hmm, peu ça l'idée. Là. Il y a des animateurs de tête, il y a des animateurs de cœur, il y en a qui tentent de combiner les deux, puis j'essaie d'offrir un mariage entre les deux. Il n'y a pas que moi qui est capable de faire ça, mais j'ose espérer que c'est une des qualités qu'on a trouvées chez moi et qu'on a considérées, mm-hmm, quand est venu le temps là, de me nommer là. Là. Donc l'idée, c'est un peu ça. Là.
Je sais que vous avez plus de 30 ans de carrière derrière vous, mais qu'est-ce que ça représente d'animer la matinale du Grand Montréal, vous qui avez grandi ici?
Ben c'est sûr que c'est pour moi extraordinairement prestigieux. J'ai non seulement grandi à Montréal, mais j'ai grandi en écoutant la radio de Radio-Canada. Donc, je pense que même dans mes rêves les plus fous, j'ai pas imaginé ça, d'autant plus que tout ça est un peu un accident de parcours. Mm-hmm. Là, c'est une expérience qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Puis à un certain moment donné, ben on est au bon endroit au bon moment. Il y a aussi un peu de chance à travers tout ça. Là. Mais c'est sûr que pour moi, c'est c'est important, d'autant plus que Montréal, bon, je n'y vis plus maintenant, mais c'est une ville que j'adore et pour qui j'ai énormément d'amour et d'affection. Et dans ce métier-là, savoir aussi qu'on peut avoir hérité à un certain moment donné d'un poste comme celui-là. Alors, ça passe ou ça casse, là, mm-hmm, c'est certain. Il n'y a aucune garantie. Mais à partir du moment où ça passe, on se dit, ah tiens, on peut s'installer de manière plus ou moins pérenne. Mm-hmm. Là, autrement dit, si les gens vous acceptent, parce qu'ils acceptent votre voix, déjà en partant, qui est l'essentiel ou une bonne partie du message, puis qu'ils apprécient votre personnalité, le cœur que vous y mettez, j'en parlais, l'esprit que vous avez, ben, quand tout le monde accepte ça, ben là, on se dit on peut faire un bon, mm-hmm, bout de chemin ensemble. Puis ça, c'est extraordinaire. C'est quand même rare dans ce métier-là aujourd'hui d'avoir des opportunités comme celle-là où on sait qu'on peut... alors évidemment, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se produisent, mais on se dit à partir du moment où ça fonctionne, le mariage, ah ben on est capable de, mm-hmm, faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, si la volonté est là, bien sûr, là, de part et d'autre. Et ça, c'est rare.
Mm-hmm. Alors, tout un matin, c'est un animateur, c'est également une équipe d'une quinzaine de chroniqueurs, de collaborateurs. Comment ce savant mélange d'intervenants a-t-il été effectué par vous, par la direction?
Ben, on s'est assis, la direction, la réalisatrice aussi, à qui je lève mon chapeau parce que tout ça serait pas possible sans elle. Là. C'est vraiment elle qui porte là, une bonne partie de tout ça sur ses épaules, Dominique Depaty et moi, donc, et des membres aussi de cette équipe qui sont des piliers, notamment les gens qui travaillent avec nous à la recherche. il y a un certain moment donné, ben c'est sûr qu'au départ, on se dit, OK, bon, ben on veut un peu d'actualité politique du côté provincial, puis on en veut du côté fédéral, puis on veut ceci, puis on veut cela. Donc, c'est un peu tout le monde, mm-hmm. finalement, qui est arrivé avec ses idées. Il y avait certains membres de l'équipe qui étaient déjà en place le matin depuis bon nombre d'années qu'on voulait garder parce qu'ils étaient bons, parce qu'on les aimait, parce qu'on se voyait, nous aussi, collaborer avec eux, puis parce que les auditeurs les aimaient. Il y a des idées qui sont venues de moi, d'autres de la réalisatrice, d'autres de la direction, puis de fil en aiguille, ben, on a procédé à ce qu'on appelle un casting, mm-hmm. ni plus ni moins, avec parfois des tests, parfois non, parce qu'il y avait des certitudes, et puis on a monté tout ça, puis la beauté de la chose, alors c'est sûr qu'on y réfléchit, mais ça demeure toujours un pari, mm-hmm. Et cette convivialité à laquelle je faisais référence, mais elle est possible s'il y a une chimie dans l'équipe, s'il y a vraiment... puis une chimie, c'est quoi? Ben c'est un esprit de corps. C'est tout le monde qui se met au service d'une émission. Donc, c'est des personnalités qui s'entendent. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit de personnalité. Il faut qu'il y ait une certaine complémentarité. Mm-hmm. Puis surtout, il faut qu'il y ait un amour.
Et ça, on le voit dans les discussions, parce que vous interagissez de manière assez spontanée, naturelle, de temps en temps. Justement, comment vous faites pour gérer toutes ces interactions, vous qui êtes un peu le maître du temps, du bon déroulement de l'émission? Est-ce que c'est un défi ou pas tellement?
Oui, absolument, parce que on le fait avec spontanéité, mais on peut se tromper aussi. On peut intervenir à un certain moment donné, puis se rendre compte, alors qu'on a déjà ouvert la bouche, que c'est pas si intéressant que ça, finalement, ce qu'on a à dire. Mais là, il faut la compléter, l'idée, ou il faut la compléter, la blague, ou il faut... on peut pas comme ça... donc, alors, j'y vais au feeling, d'une certaine façon. C'est assez intuitif. Mm-hmm. Puis, c'est l'expérience aussi, à un certain moment donné, qui parle. Il y a des moments où je me dis, bon, là... est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi d'en ajouter? Non. On a quelqu'un là qui est en parfait contrôle. Donc, je suis essentiellement là pour mettre les autres autour de moi en valeur. Mm-hmm. Puis, mon principe, c'est que si eux sont bons, ben les gens vont me trouver bon. C'est un
peu... briller grâce aux autres.
Ben c'est pas de les utiliser, mais c'est de dire qu'est-ce que ça me donne, moi, de me positionner entre eux et l'auditeur. Mm-hmm. Pourquoi je ferais ça, tu sais? Donc, non. Alors, si les gens sont bons autour de moi, ils vont être heureux. S'ils sont heureux, ils vont m'en donner. S'ils m'en donnent, ça va devenir un échange, puis ça va s'entendre, ça va se voir, ça va se sentir. Puis je pense que c'est ce qui arrive. Donc, alors, j'essaie toujours de servir la conversation. Mais des fois, je me trompe. Des fois, je fais une blague, puis c'est pas à propos. Puis,
ça arrive à tout le monde, ouais, de faire ça. Des fausses blagues. En tout cas, en ondes, vous avez l'air détendu. Votre parole apparaît naturelle, spontanée. Quel support vous avez sous les yeux pour mener les chroniques, les entrevues, pour réciter les nouvelles?
Ben, j'ai tout ce travail là, de cette équipe de recherche. Donc, on travaille en collégialité. Donc, pour le choix des sujets, on fait ça... l'équipe de recherche et la réalisatrice et moi. Donc, on a aussi cette responsabilité-là collective là, d'inscrire les sujets dans cette ligne éditoriale que je vous disais. T'sais, qu'est-ce qui s'inscrit dans la journée? Mm-hmm. C'est quoi qui est un ancrage dans l'actualité du jour, tout en garantissant une certaine diversité et de sujets et de points de vue et de voix sur le plan générationnel, sur le plan des genres, etc., des identités, parce qu'on veut se faire le reflet de la société. Donc, on fait ça ensemble. Après ça, concrètement, ben, ce qui arrive, c'est que l'équipe m'appuie énormément. Là. Tu sais, si j'ai pas Éric, Catherine, Félix, qui sont certains membres de cette équipe de recherche, ceux qui viennent les appuyer occasionnellement, Aurélie, Mathieu, je veux dire, moi, je me sens vraiment démuni. Ça veut pas dire qu'il y a rien qui vient de moi, mais ça veut dire que j'ai besoin de leur travail. Et leur travail, c'est quoi? C'est essentiellement de déterminer avec moi un angle, puis à partir de là, surtout de vulgariser l'information. Alors moi, je suis un peu une éponge. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans l'éponge que je vais relâcher après en ondes? C'est un peu ça. Mm-hmm. Et donc, ils m'alimentent comme ça avec leurs idées. Donc, essentiellement, un dossier de recherche, c'est quoi? Ben, c'est, oui, de l'information qui est rassemblée. C'est un peu ce qu'on appelle un clipping. Donc, c'est des articles, par exemple, en lien avec le sujet qu'on aborde ou avec l'angle du sujet. Puis, c'est des propositions de questions. Alors, mm-hmm. moi, je fais beaucoup de place à ces gens-là parce que je les aime puis je leur fais confiance. Et donc, je leur dis, allez-y, faites-moi des plans d'entrevue. Est-ce que je vais les respecter à la lettre? Non. Je vais peut-être inverser des choses, mais plus souvent qu'autrement, c'est des plans de grande mm-hmm. qualité qui me permettent donc, à partir de là, moi, de piger certaines choses, certaines directions, puis d'organiser ça, tu sais, selon une logique qui fonctionne pour moi, mm-hmm. puis qui, je l'espère, fonctionne pour l'invité. Mais après ça, le reste, c'est de l'écoute, là. Mais donc, beaucoup des informations viennent d'eux, parce que c'est eux qui font le travail, là, qui ratissent, autrement dit, qui font une synthèse, qui vulgarisent et qui m'envoient ça.
Et justement, on en vient aux invités, parce que vous menez également des entrevues. En général, c'est une douzaine de minutes, c'est ça, les entrevues? C'est assez court.
12 minutes, c'est ce que je fais, mais je n'ai pas la permission de faire 12 minutes.
Ah, d'accord.
non, idéalement, ce serait beaucoup plus court, mais c'est vrai que d'accord. j'ai tendance à être long. On vise là, essentiellement, je vous dirais, là, tout dépendant là, du sujet, du moment, quelque chose qui se situe plus autour de 8 minutes. Là.
D'accord. Et justement, comment vous faites pour arriver à soutirer assez d'informations pertinentes en un temps aussi réparti,
ben,
imparti?
Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas.
D'accord.
Il y a des moments où c'est difficile d'y arriver. Là. Et c'est pour ça que des fois, je m'étire, je me dis, c'est pas satisfaisant, j'ai pas eu réponse à ma question mm-hmm. ou à mes questions. Il y avait tel autre angle proposé, justement, dans le plan d'entrevue. Je trouvais ça génial, intéressant, mais là, il y a plus de temps. Qu'est-ce que mm-hmm. j'y fais? Est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'étire? C'est assez difficile. Et c'est encore une chose sur laquelle j'ai beaucoup d'apprentissage à faire puis sur laquelle je dois m'améliorer. C'est ce que nous, on appelle entre nous, c'est un peu... parce que c'est un peu une blague. Là, c'est devenu une blague, le fait que je respecte jamais les chronos, presque.
Pour un animateur, c'est un peu un comble.
Ouais,
de ne pas gérer le temps.
Non, c'est ça. Ce qui est un peu embêtant parce que, bon, il y a d'autres collaborateurs qui se retrouvent coincés après parce que j'ai tiré à tel endroit ou à tel autre endroit. Puis je comprends l'impact que ça peut avoir. Mmh. Alors, l'apprentissage, c'est de dire, bon, à quel moment je lâche prise, puis est-ce que c'est grave si je lâche prise?
Mm-hmm.
Et finalement, c'est pas si grave que ça. C'est vrai qu'il y a des opportunités uniques, parfois des opportunités rares, mais plus souvent qu'autrement, il faut aussi, et c'est ça le défi pour nous, c'est de voir les choses dans un continuum. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut, quand ça va bien, se projeter dans le temps. Il n'y a pas de garantie. Il ne faut pas non plus en faire une certitude, mais quand même, il faut s'accrocher à ça puis se dire, OK, je suis là pour un certain temps et je suis là pour accompagner les gens et donc avoir une espèce de vision, pas uniquement verticale, ancrée dans la journée malgré le mandat de l'émission, mais aussi une certaine vision horizontale. Puis c'est de se dire, OK, cette personne-là, finalement, je vais lui reparler dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Je pourrais lui revenir là-dessus, je pourrais lui reposer mes questions, Alors, c'est un peu toujours de se dire que c'est pas la fin de quelque chose, une entrevue. C'est une conversation qui va se poursuivre à un autre moment donné.
Et ça vous permet de raccourcir le temps et de...
J'essaye. C'est ça que j'essaye d'apprendre à faire, là. C'est de me dire, bon, c'est pas grave. Et c'est important de le faire pour ça. Puis c'est important de le faire aussi parce qu'on peut aussi perdre de vue à un certain moment donné... l'auditeur.
Mm-hmm.
Puis ce que moi, je trouve intéressant, puis je continue, autrement dit, l'auditeur qui écoute à la maison, là, peut-être que lui, il en a marre au bout de 8 minutes ou de 10 minutes. Peut-être qu'il a l'information dont il a besoin. Peut-être qu'il est prêt à autre chose, un autre contenu, une autre émotion aussi. Il ne sait pas, lui, c'est quoi les questions que j'abandonne, que je laisse sur ma feuille. Il ne se dit pas, tu sais, à la maison ou dans la voiture, quand il m'écoute, « Mon Dieu, il n'a pas posé telle question. » C'était pourtant si intéressant. Oui. Alors, il y en a qui se le disent peut-être, puis ces gens-là, bon, ben, ils feront les entrevues à ma place s'ils veulent, mais de façon générale, c'est... Alors, qu'est-ce qui est perdu, finalement? Il n'y a pas grand-chose qui est perdu.
On ne le sait pas.
On ne le sait pas. Fait qu'on continue, puis c'est ce que j'essaie d'apprendre à faire, mais c'est pas facile.
Un autre élément non négligeable dans le métier d'animateur de Morning Man, c'est le rythme de vie. À quoi ressemblent vos journées quand l'émission commence à 5h30 du matin?
Ben, je me lève vers 3h15, 3h30, des fois c'est 3h45, là, ça dépend de la qualité du sommeil. J'essaie d'arriver à Radio-Canada le plus vite possible, donc 4h, 4h15, et puis là, ça me donne à peu près une heure pour m'installer. Bon, je suis un petit peu maniaque, j'ai des petites manies, des petites habitudes, donc j'aime ça prendre le temps de m'installer confortablement dans mon studio, puis prendre connaissance, là, effectivement, de ce qui est publié en ligne, dans les journaux papier qu'on consulte encore, puis c'est important pour nous, en tout cas pour moi, de le faire, et puis me préparer un petit mot d'introduction, puis voilà, puis à 5h15, on a une petite réunion express où tout le monde a fait ça, chacun de son côté, on se prend 10 minutes, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'on ajoute à l'émission, qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on change, toujours dans cette volonté-là de s'inscrire dans le moment présent, puis après ça, ça part. Mais après, c'est que c'est pas terminé, quand l'émission finit à 9h, bien là, on a une autre réunion pour le lendemain. Après ça, bien, c'est de la veille médiatique. On fait de la lecture, on fait de l'écoute, on regarde un peu la télévision. Il y a une période de repos qui est en début d'après-midi, puis ça repart après à 15h. Ça peut ne jamais arrêter aussi. Mm-hmm. Autrement dit, on n'est jamais suffisamment informé de quelque chose, surtout mm-hmm. quand on a le mandat d'être un généraliste qui s'intéresse à toutes sortes de choses. Si j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut sur un sujet, ben, je peux passer à un autre puis ça va m'occuper encore pendant une heure ou deux. Donc, c'est comme un peu sans fin. Mm-hmm. Fait qu'on peut travailler tout le temps. Hein. Donc, grosso modo, moi, j'essaie de travailler une partie de la nuit puis tout l'avant-midi, me reposer en début d'après-midi, puis après ça, ça repart de 3h à 6h, 7h, des fois 8h, ça dépend. Là.
Très bien. Ben, c'est très clair. Vous dormez quand même un peu?
J'essaye, mais j'ai pas un sommeil de très, très grande qualité, ce qui m'inquiète un peu parce que sur le long terme, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait miner là, à la fois ma santé physique, mais aussi mon humeur. Puis mm-hmm. ça, c'est primordial de préserver ça. Il faut que ça reste agréable, bien sinon ça sert à rien de faire ça. Mais pour l'instant, ça va. Mais j'ai quand même de la difficulté à faire des vraies belles nuits complètes comme mm-hmm. proposées par les médecins.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'animateurs du sommeil, de matinales qui font des
conseils. Des beaux gros 8 heures bien denses. Là.
On n'y est pas encore.
Mais bon. Non, on n'y est pas encore.
À l'origine, la radio, c'était un accident de parcours, comme vous le disiez. Vous avez commencé votre carrière à la télévision avant de vouloir faire du cinéma. Venant de la télé, vous avez dit découvrir un média difficile en parlant de la radio. Pourquoi c'est difficile?
Ben, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur, mm-hmm. ou il y a très peu de marge d'erreur. C'est la première chose qui m'a frappé. Quand on est à la télé, on a un filet qui me semble plus important, là, où les mailles sont plus serrées. Là. Vous avez l'air idiot, le réalisateur coupe à un plan de la foule qui applaudit. Oui. Tout d'un coup, ça prend une fraction de seconde et une image différente, puis vous avez l'air intelligent. Donc, vous comprenez, je caricature, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a c'est plus facile de maquiller mm-hmm. les choses au sens propre puis au sens figuré. Mm-hmm. Il y a des alternatives, et on laisse une impression aussi à la télévision. Tandis qu'à la radio, tout s'entend. Mm-hmm. Alors, certainement qu'on laisse aussi des impressions, puis qu'il y a des gens qui s'accrochent à des éléments superficiels. Mais c'est plus dur de maquiller mm-hmm. les choses, c'est plus dur. Tout s'entend. Un rire nerveux, les gens sont capables de faire mm-hmm. la différence avec un rire franc. Mm-hmm. Vous perdez vos mots, il y a un moment de silence, ça peut créer un malaise, les gens vont l'entendre.
Il n'y a pas de plan de coupe. De la radio, oui.
Ouais. Tout s'entend.
Une autre différence entre ces médias, c'est qu'à la télé, il y a parfois du public sur le plateau, vous le disiez. Dans les médias numériques, il y a la section commentaires. À la radio, comment vous faites pour ressentir votre auditoire?
C'est une bonne question. Évidemment, on essaie de créer, nous aussi, un peu d'engagement à travers les outils de communication qu'on a.
Qui sont limités désormais.
Qui sont, oui, limités effectivement, parce que, bon, on est absent sur certains réseaux sociaux. C'est un fait, ça nous handicape un peu, mais on crée nos propres outils. Mm-hmm. Alors, on essaie de trouver des alternatives, puis on y travaille, puis on a la chance d'avoir des ressources à la fois financières pour faire ça, puis des ressources humaines, donc des des gens de talent qui ont développé, par exemple, notre application Radio-Canada Audio, sur laquelle maintenant on peut très facilement entrer en contact avec nous. Mm-hmm. Mais ça nous dirige vers le SMS, ça nous dirige vers le courrier électronique. Ça... Alors, on essaie de créer ce lien-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose là, qui est à considérer puis qui est à travailler. Tu sais, mm-hmm. Donc, comment et est-ce que c'est obligatoirement pendant l'émission? Peut-être pas. Donc, c'est un peu la réflexion que je me fais, à savoir, OK, comment créer ce dialogue-là dans un autre espace-temps que celui de l'émission? C'est intéressant d'avoir des réactions, puis les gens nous envoient des courriels, on les lit en ondes, mais c'est somme toute limité dans la mesure où c'est pas instantané. Mm-hmm. Il faut que la personne ait l'initiative d'écrire le courriel, il faut que ça tombe dans une boîte courriel, il faut que quelqu'un le voit, quelqu'un le lit, quelqu'un l'imprime, quelqu'un me l'apporte ou moi-même je le vois. Je prends le temps de le lire avant de me plonger en ondes avec ça, parce que des fois, ben, mm-hmm. Alors, il y a un certain délai. Est-ce que ça pourrait être plus spontané, plus instantané? Peut-être. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne le sais pas. Je pense qu'il peut aussi, à l'extérieur de l'espace-temps, y avoir peut-être des... Alors, c'est ça que je me demande. OK, comment, moi, je peux développer le dialogue avec mon auditoire, mais en dehors de mon mm-hmm. émission, et comme ça, avoir t'sais, le sentiment d'être au courant de qui m'écoute, de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ne pensent pas. De la même façon que tout à l'heure, quand vous me parliez de Montréal, ben j'y habite pas à Montréal, puis ça me dérange des fois. Alors, j'essaie de prendre du temps pour me promener en ville, pour constater les choses par moi-même, pour avoir des échanges avec des commerçants, pour avoir des échanges avec des citoyens de la métropole, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de prétendre accompagner une ville d'une certaine façon si on est complètement déconnecté, puis que, dans le fond, ma vie se résume à mon studio, mon appartement, puis ma voiture entre les deux. C'est pas réaliste, là.
Merci beaucoup, Patrick, d'être venu nous parler de votre émission et d'accepter de vous faire interviewer dans une autre matinale montréalaise.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci, et puis bonne continuation intérêt. Avec l'émission.
Bonne
On continue sur
aussi.
CIBL.
Dans mon ton cas, baby, de quoi te parle, baby, parler d'amour, baby, aller là-dedans, pour que t'aimes, aller là-dedans. De quoi te parle, je sais, ça vaut la peine d'essayer. Se casser la gueule puis se réveiller, je me dis je pense qu'on est bon là, ça y est. Mais à chaque fois qu'on se revoit, tu fais comme si rien n'était. Tu ressens la même chose que moi, t'es juste meilleur pour faker. Tu me dis jamais je t'aime tout court, tu rajoutes toujours quelque chose après. Je sais pas c'est quoi l'amour, je t'aime beaucoup, ça c'est moins vrai. Pas besoin de partir en peur, je suis pas assez en soeur. J'ai besoin d'avoir l'âme, je tombe sur répondeur. Donne-moi ton cœur, baby. De quoi te parle, baby. Parler d'amour, baby. Parler d'amour, pour que t'aimes. Parler d'amour, donne-moi ton cœur.
J'ai juste un cœur habitué à courir après quelque chose.
De quoi te parle,
baby, comme prêt.
Dis-moi de quoi te parle, je te dirai quitter. J'ai ce qu'il faut, t'es jamais obligé. Kissing eyes, on se check a money. Tu me fais de l'œil, moi je me fais des idées. Elle me dit slow down, elle se laisse désirer. Puis elle s'en va jusqu'en novembre. Je reçois ses fonds car ça ferait virer. Comme pour me rappeler que rien de gratuit. De jamais te prendre pour acquis. Que toutes les maisons rétrécissent. Quand y'a trop de choses cachées sous le tapis. J'ai fait le ménage dans ma tête. J'ai mis ce beau vu que t'es tout le temps là. Lâche-moi un casse, tu changes de vibe. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça.
J'voudrais bien trouver les mots pour te plaire. Qu'on soit deux à rêver un moment. Ou dire qu'on s'en fout, qu'on se prend pas trop la tête. Histoire de reposer nos cœurs un instant. Tu sais que j'aime bien parler, j'sais pas plus comment faire. Si ça te fait peur, je te comprends. Ça vaut tout essayer, sinon à quoi ça te sert? On apprendra à tomber en dansant. Baby,
de quoi t'as peur?
De quoi t'as peur?
Baby,
de quoi t'as peur, baby?
Parler d'amour,
parler d'amour.
là.
Oh my god.
Ouais. On dirait que je peux le voir aussi.
Tu pourrais te voir. Ah!
On est de retour sur CIBL avec Flore Morel de Westgaver du collectif Bienvenue pour sa chronique sur les enjeux d'immigration. Bonjour Flore.
Bonjour Charline, merci de me recevoir. Vous m'entendez bien ?
Oui, très bien, avec grand plaisir. Le thème que tu souhaites aborder aujourd'hui, c'est la déportation. Est-ce que tu peux tout d'abord nous expliquer ce que c'est ?
Mais oui, la déportation, donc c'est le fait de renvoyer, d'expulser une personne qui est non citoyenne du Canada. Puis c'est, en fait, c'est utilisé à la fois de manière comme une mesure administrative régulatrice pour contrôler les flux migratoires en fonction des internationaux, parfois sécuritaires, mais aussi une mesure punitive qui permet de retirer des droits accordés aux personnes étrangères, souvent à limiter ou retirer leurs droits de retour au pays. Et en fait, la grande majorité des renvois annulés au Canada sont des mesures régulatrices et visent les demandeurs d'asile. Donc, par rapport à sa taille, le Canada déporte plus de personnes que la plupart des autres pays. Et en fait, elle a une vitesse vraiment impressionnante. Donc, pour avoir quelques chiffres, en 2023, c'est plus de 15 000 personnes qui ont été expulsées. Donc, c'est le nombre le plus élevé depuis 2012. Et en fait, le gouvernement a dépensé plus de 58 millions de dollars en expulsion en 2023. Mmh.
Alors, pourquoi c'est pertinent de parler de déportation aujourd'hui ? Pourquoi as-tu choisi ce sujet pour ta chronique ?
En fait, j'ai choisi ce sujet aussi, en fait, à l'approche du 1er mai, de la journée des travailleurs et travailleuses, la lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses, parce que c'est aussi une lutte, notamment pour celles et ceux à statut précaire ici au Canada, comme les demandeurs d'asile. Et malheureusement, les mesures de déportation touchent énormément des travailleurs essentiels sans statut. Et puis, et pour ça, en fait, j'avais envie de vous partager l'histoire, qui est malheureusement pas unique, d'une famille qu'on a suivie ici au collectif Bienvenue. C'est l'histoire d'une famille de demandeurs d'asile et d'anges gardiens, donc de travailleurs essentiels pendant la pandémie. Déborah, son mari et leurs trois jeunes enfants, qui se battent ici depuis plus de 6 ans pour obtenir un statut, pour se régulariser, pour vivre en sécurité ici au Canada. Et puis faire reconnaître leur contribution essentielle à la société québécoise. Pour vous raconter un peu brièvement leur parcours, donc Déborah, son mari et leur premier enfant sont arrivés au Canada en 2017 pour demander l'asile parce qu'ils vivaient des menaces très graves pour des motifs religieux au Nigeria. Et donc leur demande, après tout le processus, a été refusée par la commission qui a mis en doute la véracité des persécutions qu'ils ont rapportées. Alors, il faut savoir que le Nigeria est classé, selon la liste du World Watch 2024, comme le 6e pays au monde où les persécutions des chrétiens sont les plus violentes. Mm-hmm. 82% des chrétiens tués pour des raisons liées à leur religion dans le monde l'ont été dans ce pays-là. Donc, ils se sont battus pour démontrer que c'est ça, les persécutions qu'ils ont vécues. Et donc, pendant ces 6 dernières années-là, tout en faisant tous les processus de régularisation qui étaient à leur portée, donc faire appel à la décision, entamer une demande de résidence humanitaire. Le couple s'est tout à fait intégré à Montréal. Ils ont appris français. Pendant la pandémie, ils ont été des travailleurs essentiels dans le secteur alimentaire, puis la santé. La mère de la famille a même travaillé ensemble, debout toute la journée, dans un entrepôt frigorifique, puis comme préposé aux bénéficiaires. Donc, ils sont devenus ce que François Legault a baptisé les anges gardiens pendant la pandémie. Puis, c'est ça, aujourd'hui, ils travaillent tous les deux comme à temps plein auprès des personnes lourdement handicapées, principalement à domicile. Et donc, le couple a eu 2 autres enfants qui sont nés ici, donc nés canadiens, qui aujourd'hui vont à la garderie, à l'école en français. Ils mènent une vie comme n'importe quel enfant québécois. Et c'est dans le processus là où ils sont aujourd'hui, c'est des processus qui sont en fait tellement coûteux. Ils ont engagé, Déborah me racontait qu'ils ont engagé plus de 40 000 dollars là dans tous ces processus juridiques. Donc ils sont dans une demande de résidence humanitaire qui est basée sur leur intégration dans la société. Parce que c'est un statut qui est très précaire, puisque cette demande, en fait, c'est une demande qui peut prendre plusieurs années. Il n'enlève pas le droit à l'Agence des services frontaliers du Canada, donc l'AFSC, de les déporter dans leur pays.
Est-ce qu'on sait les raisons Est-ce qu'on sait les raisons évoquées par le gouvernement pour les expulser?
Mais oui, en fait, c'est ça. Parce que, donc, premièrement, comme leur demande d'asile n'a pas été acceptée, ils ont entamé une première demande de résidence humanitaire. Et selon le rapport, en fait, ils ont pas pu démontrer, parce que la demande humanitaire est basée vraiment sur leur intégration. Et ils n'ont pas pu démontrer qu'ils avaient une intégration économique notamment suffisante. Donc les revenus n'étaient pas assez élevés. Donc il faut savoir qu'ils sont préposés aux bénéficiaires. Donc c'est les emplois qui sont qui sont très très précaires, qui sont sous-rémunérés. Et même s'ils ont travaillé à temps plein, même pendant la pandémie, même quand elle était enceinte, ça ne suffit pas. Mm-hmm. Et donc c'est ça. Là pour l'instant, ils font appel par une deuxième demande de résidence humanitaire. Et malheureusement, l'agence les a fixé une date, donc c'était le 5 avril, pour les déporter. Mais la famille s'est tournée vers nous quand ils ont reçu cet avis d'expulsion-là. Et donc ça, malgré le danger qui les attend au Nigeria, malgré leur forte intégration, leur travail auprès des personnes porteuses de handicap, et puis malgré le fait qu'ils soient encore dans un processus avec leur avocat pour se régulariser, ils ont reçu une mesure d'expulsion, puis les trois enfants vont à l'école, parlent français, deux d'entre eux n'ont juste la même pied au Nigeria. Donc ils ont dû se présenter, elle a été avec leurs parents, devant apporter des preuves qu'ils ont quitté l'école, qu'ils ont quitté leur travail, rendu leur appartement, leur voiture, et puis pour les deux enfants canadiens, défaire les démarches pour un visa, en fait, pour le Nigeria. Oui, pardon, excuse-moi, dis-moi.
Je voulais te demander, toi, tu travailles au collectif Bienvenue. Qu'est-ce qui a été organisé pour empêcher leur expulsion?
Mais c'est ça, en fait, c'est un peu ce qui est compliqué dans ce cas-là, c'est que la seule chose qu'on peut faire, le ministre de l'Immigration a un pouvoir discrétionnaire pour suspendre l'expulsion. Et donc, c'est un peu on a utilisé le seul levier qu'on avait, qui est la mobilisation citoyenne communautaire, par exemple, aller interpeller le ministre par tous les moyens pour qu'il suspende l'expulsion. Donc, on s'était avec la famille, leur incroyable force et détermination, avec tous les amis, les collègues de la famille, les élus politiques aussi, puis tous les citoyens engagés. On s'est retrouvés le 29 mars passé, quelques jours avant leur date d'expulsion. On était une centaine à se mobiliser devant le bureau du ministre, pour demander de suspendre, et ça a été vraiment... Il y a eu pas mal de visibilité médiatique, vous en avez peut-être entendu parler, ça a été vraiment une matinée sous le signe de la solidarité et la lutte pour faire reconnaître et valoriser leur travail, en fait, essentiel.
La date d'expulsion de la famille, elle était prévue au 5 avril, comment l'affaire s'est finie, finalement?
Je pense grâce aussi à la couverture médiatique, l'expulsion a été suspendue et la réponse est tombée, mais quelques jours avant leur rendez-vous à l'aéroport, ils ont reçu une résidence qui est pour l'instant temporaire et en fait qui leur permet au moins d'aller jusqu'au bout des démarches pour se régulariser, quoi. C'était une victoire pour
Et alors, comment ce cas de la famille Adegboa, il illustre les enjeux plus larges auxquels sont confrontés les demandeurs d'asile déboutés au Canada? Parce que là, c'est un cas particulier, mais comme tu nous en dis, il y en a plusieurs dizaines d'autres milliers d'expulsions par an. Qu'est-ce que ça illustre au niveau global?
En fait, c'est ça. C'est un cas qui n'est pas du tout... qui est loin d'être seul. En fait, je pense que ça illustre déjà le fait combien les longs délais dans les procédures d'asile puis les procédures de régularisation, ça complique, en fait, un peu la donne. Parce que les personnes, en particulier les personnes demandeuses d'asile, s'intègrent très rapidement, économiquement, socialement, parlent français, apprennent très vite le français. Et puis surtout, en fait, les personnes immigrantes prennent ces emplois essentiels, souvent hyper précarisés, que les Canadiens et Canadiennes ne veulent pas. Et donc ces personnes-là contribuent à bien intégrer, se retrouvent très vite, un peu du jour au lendemain, coincées, entre la peur de retourner dans leur pays de persécution, et puis souvent la non-reconnaissance de leur rapport au Canada et de leur intégration. Chaque jour, le Canada expulse des personnes comme la famille qui travaille sous-rémunérée. Et puis, je pense qu'en fait, ça met aussi en lumière un peu le tournant qu'ont pris les politiques migratoires ces dernières années, qui sont axées beaucoup plus sur une immigration qui est temporaire, selon les besoins économiques, notamment du Québec, du Canada, qui précarisent normalement les migrants, où les droits sont très peu protégés, ça les soumet à des conditions de travail qui sont très précaires, et les personnes vite tombent un peu entre les mailles du filet et se retrouvent sans statut. Donc, c'est ça. Enfin, 2021, si je me souviens, le gouvernement fédéral s'est engagé à développer des voies de régularisation pour les travailleurs, travailleuses migrantes sans statut. Mais à ça, toujours en fait, ça, pas encore de vrai programme qui a été annoncé. Et comme je disais, c'est 15 000 personnes là, en 2023 à 58 millions de dollars d'expulsion de milliers de travailleurs, travailleuses essentielles à un moment où ben, justement la société a vraiment besoin de ces personnes.
Très bien. Merci beaucoup, Flore, d'être venue nous parler de cet enjeu. On se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un autre enjeu lié à l'immigration. Merci beaucoup et puis on se voit la prochaine fois.
Merci beaucoup, Charline.
On continue sur CIBEL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et l'émission du mardi touche déjà à sa fin. De notre côté, je remercie nos invités, nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Michaël Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, je reçois notamment l'organisme Les Ateliers Speech pour parler de leur nouvel EP, le quatrième qui sort. Et puis, on recevra également une de leurs artistes qui nous fera l'honneur de faire une performance en live. Alors, restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis, n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Je me rappelle, j'oublie. Je me rappelle, j'oublie. Je me mets une note sur mon cell de m'appeler. Je m'appelle, oui, allô, Michel, oui, c'est qui? C'est Michel. Ah oui, pourquoi tu m'appelles? Je sais plus, j'oublie. Ah, dommage, ça te revient. Ça me revient, je te rappelle. OK, parfait, bon, ben, bye. Ouais. Je me rappelle. Allô, Michel, encore toi? Ouais, c'est ça. Je me rappelle que je t'appelais pour te dire une chose qu'il fallait pas t'oublier, mais j'ai encore oublié. Ça t'arrive-tu, toi, des fois? Ben oui, je suis toi. Hein? Ce qui t'arrive m'arrive, donc quand tu m'appelles, veux-tu au moins te souvenir de ce que tu veux me dire avant de m'appeler? Sinon, tu fais juste fucker notre cerveau. Hey, wow, minute, là. Fucker notre cerveau, on peut se parler mieux que ça. Les chicanes intracérébrales, là, c'est à cause de notre téléphone. En plus, moi, je me mets des rappels sur mon cell dans le but qu'il me rappelle de t'appeler. Puis il fait, il t'appelle, mais il dit pas pourquoi il t'appelle. Puis pendant ce temps-là, j'oublie. Sur mon cell, il y a des vidéos de monde qui se plante sur des skis en arrière d'un bateau qui va vite, une souris qui court après un chat. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, des affaires pas possibles. Là. Ben maintenant, oui, là, des fois entre deux courriels ou ben quand on enchaîne un texto après l'autre. Le bonhomme a mal au dos, le frère est en prison, la copine est chez l'amant, puis il y a des belles casseroles en rabais si tu commandes en ligne dans les 10 prochaines minutes. Pratique, hein? Fait que j'oublie. Un oiseau qui conduit une mini-voiturette téléguidée, c'est bien cute, ben non, c'est un petit gars de 8 ans, ben tannant, qui a collé le moineau sur un bas puis qui conduit avec la manette et il monte à la fin du vidéo. On sait plus qui croire, là. Qu'est-ce qu'il annonce demain? M'en aller voir. Je me souviens de l'ancien numéro de mes amis que j'appelais quand j'étais petit, de François, de Simon, de Vincent, de Frédéric, de Céline, d'Émilie. Ils ont changé de numéro, ils ont un cell et ça me prend le mien pour leur faire des appels. C'est mon cell maintenant qui se rappelle de tout ça. Mes rendez-vous, mes paiements, les photos de mes enfants, ah ouais, dans l'appareil et tout ce que j'ai besoin, c'est de l'avoir dans mes mains ou pas loin. Et de garder un contact visuel jusqu'à la fin de ma vue. Ça me garantit en partie ma mémoire. Je peux me coucher la tête vide à tous les soirs. C'est génial. C'est magnifique. Pas tant que ça. Je me rappelle de rien, puis mon cell se rappelle de tout. J'ai le goût de le garrocher au bout de mes bras, mais j'ai peur de plus savoir je suis qui. Je me rappelle, j'oublie. Ouais, c'est ça, un couplet, un refrain. Je me rappelle, j'oublie. Fin.
Ici Maud Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Chez Éduque à Loi,
on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
Alors arrête de tourner les coins ronds.
Et renseigne-toi avec Angle Droit.
Chaque mardi de 11h à 11h30.
Sur CIBL au 101.5.
C'est un rendez-vous parce que savoir...
C'est pouvoir.
devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous. Souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires. On a
les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
CIBL 105 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent appliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.